Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Pour ma chronique numéro 7 de Finance Vérité, le titre en est « La pompe à finance », que l'on peut entendre d'ailleurs au singulier ou au pluriel. Tout d'abord, dans l'actualité économique, je constate que l'économie générale connaît à l'heure actuelle deux évolutions opposées, classiques, réévaluation monétaire d'une part et récession économique de l'autre. Le dollar US se resolvabilise, mais il est tiré à la baisse sur les marchés interbancaires par suite de la volonté des banques européennes de se tirer du guépier des faux dollars qu'elles ont émis depuis 40 ans. Le cours du dollar US serait donc très supérieur s'il résultait d'un vrai marché, ouvert à tous les intervenants, publics et privés, individuels ou corporatifs, physiques ou moraux, institutionnels ou occasionnels. Il y a donc ce masque bancaire qui tord la réalité au point de la faire grimacer. Cette réalité est une constante historique. Quand l'économie baisse en valeur sommationnée, PIB, la monnaie au contraire voit sa valeur augmenter. C'est le cas typique de l'euro, mais en apparence. Là aussi, la réalité est tordue, car l'euro n'est pas une monnaie, mais seulement l'expression de la comptabilité centrale du système bancaire de l'euroland allemand. Comme l'euroland élimine petit à petit ses dettes en dollars, avec difficulté, son unité monétaire centralisée en profite vis-à-vis de cette monnaie, mais au détriment de l'économie qui produit moins, dont les biens sont pillés par l'étranger créancier, et dont les prix dérapent complètement, ruinant le bas peuple. Donc l'euro va connaître dans un futur proche une très forte chute. Il deviendra sûrement le mal-aimé avant de disparaître. La production automobile, qui n'est pas autre chose qu'une pompe à finances pour les États, a été évidemment sauvée par eux. Ce qui n'est pas bien réjouissant, car pour maintenir le flux énorme d'impôts prélevés à la source d'essence, le recours aux énergies non polluantes et gratuites est interdit. Les voitures à moteur hybride, voire totalement à hydrogène et oxygène, donc à eau, restent interdites, ou de pénétration réduite à rien, grâce en partie à des prix unitaires exorbitants en France et en Europe, tandis qu'elles prolifèrent aux USA, notamment en Californie, où Terminator protège, lui, son peuple. Mon conseil patrimonial du jour est donc d'investir à fond sur les actions de sociétés sûres, produisant réellement quelque chose d'utile, sur un marché porteur, dans les secteurs comme le pétrole et sa découverte, l'hydrogène, la collecte des nodules polymétalliques, le luxe. En effet, les riches et ultra-riches prolifèrent en ce moment comme jamais. Je pense à des sociétés comme Morel et Prom, Dow Chemical, Air Liquide, les chantiers navals de luxe de la Ciotat et bien d'autres. Si vous voulez toutefois un portefeuille à moyen et long terme qui puisse être extrêmement favorable. Troisièmement, mon histoire de la monnaie classique dans son chapitre 7, où nous allons examiner le problème de la monnaie métallique avec ses avantages et ses inconvénients. Repartons sous Louis IX, au XIIIe siècle. Le sou d'or devient écu, le sou d'argent aussi, quand il a là, sur sa pièce, l'écu du roi à sa face. On note l'effort, malgré la dévaluation de la livre tournois, pour retrouver les anciennes pièces, mais rebaptisées à la moderne. Cette réforme simple qui amenait le gros de Saint-Louis, le gros denier, dont nous avons parlé précédemment à égalité avec l'ancien sou, fut bien comprise du peuple de l'époque, qui voua dès lors une gratitude éternelle à son roi. Comme quoi, pour réussir des réformes monétaires, il faut et il suffit, comme disait mon ancien professeur d'alchimie et de physique au collège, que le peuple d'abord la comprenne, ce qui est primordial, puis ensuite l'accepte. Il est impossible de faire une réforme monétaire qui réussisse à terme contre le consentement du peuple, ce qui nous fait douter par conséquent du succès à long terme de l'euro dont personne ne voulait et qui dut être imposé par menaces et chantage du gouvernement, notamment sur les commerçants. Mais revenons sous Louis IX. La livre tournois s'impose petit à petit dans le royaume où les unités de poids, de mesure et monétaire étaient presque aussi nombreuses que les localités depuis 8 siècles et la chute de l'Empire romain. La livre tournois valait, par exemple, 1,25 livres parisis, de Paris en latin, au début du règne de Philippe IV le Bel, quelques années plus tard, en 1285. Comme cette époque est très révélatrice des difficultés d'adaptation de l'économie monétaire à l'économie générale, il nous faudra avancer désormais pas à pas dans notre histoire de la monnaie, comme en terrain miné, avec des précautions didactiques maximales. Je commencerai par rappeler que l'émission de monnaie métallique passe par trois contraintes, la taille, la loi, le cours. La taille, c'est la quantité de morceaux utiles ou pièces de monnaie que l'on peut raisonnablement obtenir en divisant un lingot d'un marque, à l'époque de 245 grammes de métal pur par exemple. De cette quantité découle en effet la taille, exprimée de nos jours en millimètres, de la pièce de métal pur que l'on espère voir circuler normalement, par simple tradition, c'est-à-dire de la main à la main. Si cette pièce était trop petite pour être utile, il conviendrait soit d'en tailler moins aux marques, soit d'en tailler autant, mais dans un marque plus gros obtenu en alliant au métal pur un autre métal, moins noble, donc en utilisant un marque dopé d'un pourcentage de fausse monnaie. Cet alliage trompant alors le peuple sur sa valeur réelle, au cas où le seigneur émetteur oserait frapper les pièces de son poinçon, ce qui lui vaudrait sûrement la pendaison à l'époque. La loi, c'est donc la quantité de métal précieux pur à 100%, soit 24 carats, exprimée en pourcentage, ou en poids brut, contenu dans un marque servant à la taille des pièces. L'autre métal fut souvent appelé monnaie noire, car il dégrade la valeur intrinsèque de la pièce au seul niveau du contenu de métal noble pur. On parle alors d'un alliage à tant de carats, par exemple 18 carats, soit des objets ou des pièces à 75% de métal pur, on pourra dire aussi à 750 millièmes de fin. Cette valeur était jusqu'à il y a peu la valeur légale poinçonnée de l'or de bijouterie en France, mais seulement de 9 carats en Italie ou en Espagne et de bien moins encore ailleurs. Maintenant, c'est n'importe quoi. Il y a intérêt à vérifier ce qu'on achète, y compris les pièces dites d'or, qui sont souvent fausses, donc fortement dopées, de cuivre ou autre chose. Le cours, c'est-à-dire la valeur nationale et internationale du métal pur utilisé comme matière première. Il est évident que le plus le cours augmente, moins il devient possible de maintenir la quantité des métal pur dans une pièce de valeur faciale constante, d'où la nécessité de la doper avec du métal moins cher dans une proportion dictée alors par les termes des échanges internationaux. Ou alors on est obligé de diminuer la valeur faciale de la pièce, ce qui entraîne aussitôt une hausse des prix économiques ou une dévaluation avec des sous-multiples pour les menus échanges. Le peuple voit toujours ces manipulations d'un très mauvais œil, ce qui vaudra d'ailleurs une très mauvaise réputation à Philippe le Bel, comme on le verra dans un autre épisode. Nous touchons là le gros problème de la monnaie métallique. Il faut disposer d'un stock de métal pur suffisant, à un prix adapté, pour mettre en circulation la quantité de pièces utilisées par l'économie générale. Il faut donc aussi avoir une idée précise des besoins de cette économie, qui dépendent de la démographie, d'où la nécessité de recensement périodique, et disons-nous aujourd'hui de la valeur du PIB, c'est-à-dire en tant que sommation des échanges exprimés en monnaie. Toute distorsion, soit dans le prix d'achat international du métal noble, si l'on n'en dispose pas assez chez soi, soit dans l'évolution démographique ou dans celle des prix, crée aussitôt un problème grave, très difficile à résoudre pour le gouvernement. Rappelons que si nous ne disposons plus en France d'un approvisionnement en or suffisant de nos mines, à sec, cela vient du pillage romain durant 5 siècles, à côté duquel le pillage allemand de 4 ans de 40-44 n'est qu'une peccadille. Nous verrons donc dans notre prochain chapitre les liaisons monnaie-économie et les soucis d'adaptation permanents de l'une à l'autre qu'elles imposent au gouvernement. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.